Nous lirons ce matin un des trois textes proposés à la méditation des Églises en ce dimanche, un seul des trois. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 19. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils, et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour l'holocauste, mon fils. Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit un autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas retenu ton fils unique, loin de moi. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Yiré, ce qui signifie « Yahvé voit ». C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera vu ». Le messager de l'Éternel appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas retenu loin de moi ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. » Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. » Abraham revint vers ses serviteurs, puis ils s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Ce texte du livre de la Genèse est l'un des plus connus, l'un des plus interprétés, en exégèse, en commentaire, mais également en peinture, en théâtre. Théologiens, biblistes, psychanalystes, artistes s'en sont emparés, s'y sont plongés. Qu'est-ce qui passe ? Qu'est-ce qui se passe à travers ces figures de père, de fils, de messager divin, de bélier ? Dieu a-t-il vraiment demandé à Abraham de sacrifier, de tuer, de donner son fils en holocauste, le fils de la promesse, le fils tant attendu, tant désiré ? Abraham a-t-il vraiment obéi sans protestation et sans état d'âme ? Isaac se laisse-t-il vraiment faire ? Et puis, même si elle est absente du texte, quelle a été la réaction de Sarah, l'épouse d'Abraham, la mère d'Isaac, qui d'ailleurs meurt tout de suite après cet épisode ? Bien des exégètes lisent dans ce récit de Genèse la condamnation de tout sacrifice humain qui était pratiqué largement dans le Proche-Orient ancien et même au-delà, particulièrement le sacrifice des enfants. Ces enfants si précieux d'être les garants de l'avenir, et un avenir ainsi remis aux dieux pour se concilier leur bonne grâce et obtenir la victoire, la pluie, de bonnes récoltes ou un vent favorable. Le messager divin, interrompant le geste d'Abraham qui s'est saisi du couteau, le don du bélier pour prendre la place d'Isaac sur le bois de l'Holocauste, cela signe la fin de cette horrible pratique pour ceux qui mettent leur foi dans le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu d'Israël. Certains théologiens insistent sur la foi d'Abraham, inaltérable, même devant la perspective de devoir sacrifier, donner son fils dans l'Holocauste. Une foi inébranlable, même devant la contradiction, la cruauté ou la perversité d'un Dieu qui donne, qui a donné pour mieux reprendre. D'autres encore, ou parfois les mêmes, mettent l'accent sur l'obéissance du patriarche à un ordre qui ne peut qu'arracher le cœur du père aimant qu'il est. Mais rien ne doit résister, s'opposer à la volonté de Dieu, et s'y plier représente la seule voie acceptable, celle qui manifeste véritablement la crainte de ce Dieu souverain qui peut exiger une vie, et peut-être plusieurs vies, et peut-être même de nombreuses vies. D'autres encore admirent la soumission d'Isaac, son acceptation sans broncher du sort funeste que son père lui réserve à la demande de son Dieu. En voilà un fils respectueux, respectueux de son père, respectueux de la foi de son père. D'autres chercheurs de sens invitent à comprendre ce que le récit fait apparaître de la relation entre Abraham et Isaac, le père et le fils. La manière dont l'Éternel intervient dans cette relation de famille, car nous savons bien, par expérience, ou par ce que nous voyons, entendons et lisons, et peut-être parce qu'avant d'avoir lu Genèse 22, nous avons lu Genèse 4, Caïn et Abel, nous savons combien ces relations de famille peuvent être difficiles, conflictuelles, empoisonnantes, et même destructrice. Cette quête est riche, constructive et passionnante, et elle conduit à déplier des recoins du récit qui sont cachés soit par les traductions, soit par certaines traditions de lecture très anciennes. Il suffit de lire au fil du temps et des versions les différents titres donnés à ce passage dans le livre de la Genèse. Et par exemple, en particulier, aucune traduction ne rend compte, peut-être qu'on ne le peut pas, rendre compte du fait que ce que Dieu demande à Abraham au verset 2 peut se comprendre de trois manières différentes, telles que la phrase est formulée en hébreu. La première manière, c'est celle que nous avons lue dans la traduction de la NBS, et c'est peut-être celle qui est le plus répandue. Offre-le, offre Isaac, en holocauste ou parfois en sacrifice, sur la montagne que je t'indiquerai. La deuxième manière, c'est de comprendre, d'entendre. Va et fais monter ton fils sur la montagne pour un sacrifice, sans qu'Isaac soit celui qui est sacrifié, mais c'est simplement un holocauste qui sera offert sur la montagne par un père accompagné de son fils. La troisième manière d'entendre ce verset, c'est tout simplement « Fais monter, élève ton fils sur la montagne ». Car le mot traduit par « holocauste » ou par « sacrifice » dans bien des versions, c'est vraiment un holocauste, indique aussi de manière plus banale l'idée de monter, un escalier, une pente, ou encore l'idée de s'élever, mais au sens symbolique. L'indétermination, la plurivocité de ce verset disparaît dans les traductions, dans toutes les traductions françaises, qui choisissent donc, pour la plupart, comme la NBS, l'univocité de l'ordre de donner Isaac en holocauste. Et pourtant, ce n'est qu'au verset 9, plus loin dans le récit, que nous comprenons qu'Abraham entend ainsi, interprète de cette manière ce qu'il a entendu au verset 2, lorsqu'il ligote Isaac sur le bois de l'autel. Jusque-là et pendant tout le chemin, et cela a duré 3 jours, dit le narrateur, pendant tout ce temps qu'il a fallu pour arriver sur cette montagne, et à travers tout ce qu'Abraham a dit d'une part à ses serviteurs et d'autre part à son fils, rien ne nous permettait de savoir ce qu'il allait faire. Sauf si nous nous laissons malheureusement influencer par les titres de nos traductions. Il est question d'épreuve, c'est dans le premier verset, d'une mise à l'épreuve d'Abraham par Dieu, mais il y a toujours avec un texte biblique l'épreuve de la traduction et l'épreuve de l'interprétation. Et le récit prend son temps, tant de temps, pour indiquer les préparatifs du voyage. Abraham qui selle son âne, qui coupe le bois pour l'holocauste. Le détail de ce qu'Abraham dit à ses serviteurs et qui n'a pas d'autre intérêt que de ralentir le récit et de faire comprendre qu'à ce moment-là, Abraham compte encore redescendre avec son fils de la montagne. De même que le récit détaille la question d'Isaac interrogeant sur l'animal qui sera donné en holocauste, qui sera sacrifié, et la réponse du Père qui compte sur l'Éternel pour y pourvoir. Tout ce temps qui maintient la plurivocité de ce que l'Éternel a dit à Abraham, jusqu'à la décision d'Abraham de lier Isaac sur le bois de l'autel et de prendre le couteau. Décision rompue, geste interrompu par l'intervention du messager, et Isaac ne mourra pas. Il y aura bien un animal fourni pour l'holocauste, et c'est un bélier, pas un agneau, c'est-à-dire un père, et pas un fils. Et si Abraham a bien fait monter son fils sur la montagne, il rentre sans Isaac. Le fils est désormais séparé de son père, suivant son propre chemin. Une séparation symbolique qui fait d'Isaac une personne élevée comme sujet et sujet distinct de son père. Ainsi, les 3 possibilités de traduction et d'interprétation de l'ordre donné par Dieu à Abraham se retrouvent-elles à la fin du récit ? Mais l'une est interrompue, l'holocauste et le sacrifice d'Isaac, tandis que les 2 autres, l'holocauste offert par Abraham en présence d'Isaac et l'élévation, le fait que le fils soit monté comme sujet distinct de son père, ces 2 interprétations-là sont accomplies. Mais il est possible d'aller un petit peu plus loin, de creuser un peu plus, de comprendre un peu plus. Qu'est-ce qui a été mis à l'épreuve? Est-ce la foi d'Abraham? Alors certainement pas dans le sens où Dieu voudrait vérifier qu'Abraham a suffisamment de foi. La promesse faite à Abraham d'une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel ou le sable de la mer, la promesse d'une terre où habiter, la promesse de la bénédiction répandue sur toutes les nations de la terre, cette promesse a déjà été faite au début de l'histoire d'Abraham. Et elle a été faite sans condition. Et le signe de la promesse, la naissance d'Isaac, cela a déjà été donné, sans condition non plus. Et quel genre de Dieu poserait une condition après avoir donné ce qu'il a promis? Ce serait quand même d'une extrême perversité. Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jésus-Christ, ne demande pas de preuve de foi. Il suffit de lire les évangiles pour constater à quel point les disciples de Jésus en manquent souvent de foi. Et cela n'empêche pas qu'ils soient disciples. Ils comprennent souvent de travers ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Par exemple, dans le texte de l'évangile proposé ce jour, c'était le récit de la transfiguration de Jésus dans l'évangile de Marc. Pierre ne trouve rien de mieux à proposer en voyant Jésus transfiguré, accompagné de Élie et de Moïse. Pierre ne trouve rien de mieux à leur proposer que de dresser trois tentes comme si on allait s'installer là pour un temps long. Et pendant ce temps, au pied de la montagne, les autres disciples qui n'ont pas accompagné Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, ces autres disciples ne sont pas capables de délivrer l'enfant d'un père de l'esprit impur qui le fait beaucoup souffrir. Alors, souvent, parfois, cela agace Jésus, mais jamais il ne sanctionne ses disciples pour leur manque de foi ou leur incompréhension. Le récit de Genèse, dans sa mise en scène si particulière, exprime à la fois la confiance en Dieu d'Abraham et son indécision, son attente, son espoir que Dieu intervienne et la poursuite du chemin vers la montagne sur laquelle aura lieu un holocauste, son amour pour Isaac, son fils, et sa fidélité à ce qu'il croit. Mais même ce qu'Abraham croit, jusqu'à lier son fils sur le bois, jusqu'à tendre la main pour prendre le couteau, cela peut ne pas être juste. D'ailleurs, depuis le début du récit d'Abraham, le lecteur a eu l'occasion de se rendre compte qu'Abraham n'est pas non plus un croyant parfait et un être absolument sans défaut, hein. Par deux fois, pour sauver sa vie qu'il croyait menacée, il a fait passer son épouse pour sa sœur. Seulement sa sœur, parce qu'elle est quand même sa demi-sœur, pour la donner à un autre. Mais Dieu n'a jamais demandé à Abraham d'être irréprochable, impeccable, ce qui signifie sans péché. Et lorsque Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est après avoir longuement expliqué que cette perfection du Père, c'est sa générosité inconditionnelle. Ce qui est mis à l'épreuve dans la foi d'Abraham, c'est la façon dont Abraham considère son fils. Parce que Isaac n'est pas seulement un fils. Isaac est le signe de la promesse qui a été faite par Dieu à Abraham. Isaac est le fils donné par Dieu. Isaac est un don de Dieu à Abraham. Sarah était trop âgée pour enfanter. Isaac est l'impossible devenu possible, le don de Dieu. Et ce qui est mis à l'épreuve dans la foi d'Abraham, c'est la manière dont il considère le don de Dieu. Et c'est en cela que ce récit peut éclairer chaque croyant. Au-delà de seulement ceux qui sont pères ayant un fils ou des parents avec leurs enfants. Ce récit éclaire chaque croyant en le faisant cheminer Et cela prend du temps, en l'interrogeant sur la manière dont il considère le don de Dieu qu'il a reçu. Lorsque le messager dit à Abraham qu'il n'a pas retenu son fils loin de Dieu, cela signifie qu'Abraham a renoncé à considérer son fils, son unique, son fils aimé, comme sa propriété. Il était prêt à le donner en holocauste. Il était prêt, d'une certaine manière, à le rendre à Dieu, c'est-à-dire à ne pas le garder pour lui. Et le messager intervient à ce moment pour lui dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Alors ce qui reste, ce qui était en jeu, c'est le fait qu'Abraham ne considère plus Isaac comme son enfant, qui lui appartient, qui est à lui parce que Dieu le lui a donné, son enfant sur lequel il peut avoir droit de vie ou de mort, même au nom de sa foi, même au nom de Dieu. Ce dont il s'agit, c'est de considérer toujours un Dieu, un don de Dieu, comme don, et de ne pas se l'approprier, de ne pas le maîtriser. Ce don pour Abraham, c'est un fils, mais ce peut être la grâce, le pardon, la bénédiction, l'esprit, la vitalité, c'est-à-dire la vie de la vie, le sens de la vie, et même la foi. Ce n'est pas qu'il faille le rendre ce don, comme Abraham a cru qu'il fallait qu'il donne son fils en holocauste, qu'il le sacrifie pour le rendre à Dieu. Mais pour que le don reste un don, ce qui est donné ne doit pas être considéré comme une possession, quand bien même cela touche à l'être, à l'identité et au sens de l'existence. La promesse faite à Abraham va bien au-delà de lui-même. Et la promesse n'est pas tant qu'il sera le père d'un fils, mais qu'il sera le père d'une multitude bénie en lui. Ce qui est donné par Dieu, de grâce, de pardon, de bénédiction, d'esprit, de parole, n'est pas limité à celui ou à celle qui le reçoit. Non, ce n'est pas qu'il faille rendre le don, comme Abraham a cru qu'il fallait qu'il sacrifie son fils, car cela même, le rendre, signale une maîtrise de ce qui a été donné, puisqu'on le rend. Et même si cela est fait au nom de la foi, voire au nom de Dieu, ce n'est justement pas une manière accordée à un don de Dieu, mais une manière d'en faire un pouvoir. Il y a une manière de s'approprier le don de Dieu, don de grâce, de pardon, de bénédiction, de foi, qui conduit à se croire détenteur du pouvoir de déclarer, du coup, qui est pardonné et qui ne l'est pas, qui est béni et qui ne l'est pas, qui est bénéficiaire de la grâce et qui ne l'est pas ou plus, qui est croyant et qui ne l'est pas ou pas assez. Une manière de croire qu'avoir reçu un don de Dieu confère un pouvoir, et ainsi se prévaloir de ce don pour se justifier d'être meilleur qu'autrui et d'avoir raison contre lui. Il y a une manière de s'approprier le don de Dieu qui induit un pouvoir sur autrui, comme Abraham a cru pouvoir, même par devoir, tuer son fils sur le bois, sur l'autel. Et certainement faut-il avoir goûté à cette tentation du pouvoir pour arriver à y renoncer. Mais c'est un chemin qui peut être long et lent. Et c'est un chemin dans lequel il faut le plus souvent de l'aide. Mais ce chemin-là, ce renoncement, conduit à la possibilité merveilleuse de se tenir en relation avec le Dieu qui donne autrement que dans un cadre de soumission ou de dette infinie. Ce cheminement conduit à la possibilité merveilleuse de se tenir devant Dieu dans la reconnaissance et la gratitude pour ce qui a été reçu de grâce, de pardon, d'esprit, de parole, et qui toujours précède chacun. La possibilité merveilleuse de se tenir devant Dieu dans l'Alliance, écrit la Genèse, tandis qu'Abraham et d'autres après lui diraient dans la confiance. Et il n'y a alors personne à sacrifier. Personne n'a à payer ou à subir quoi que ce soit pour ce que nous croyons. Abraham n'a pas retenu son fils pour lui, loin de Dieu. Il était prêt à le lui rendre, seulement ce n'est pas un rendu qui accomplit la volonté de Dieu, mais un laisser-vivre. Laisser-vivre autrui sans l'attacher, sans le ligoter. Dans la tradition juive, ce récit de Genèse 22 s'appelle « La ligature d'Isaac ». Laisser-vivre sans attacher autrui, ce n'est ni le rejeter, ni se désintéresser de lui, mais c'est plutôt une sorte de consécration. Rendre l'autre sacré, c'est-à-dire le considérer comme part de Dieu, qu'il aime, le sauve, le bénit, lui fait grâce. Et Dieu lui-même n'a pas voulu sacrifier son Fils sur l'autel de sa toute-puissance irritée. Si Jésus meurt sur la croix, c'est qu'il donne sa vie par fidélité à Dieu et afin que les humains connaissent et reconnaissent ce Dieu qui donne pour leur liberté, pour leur vie et pour celle des autres. Car Dieu, qui ne demande ni preuve, ni holocauste, ni sacrifice, appelle à devenir vivant, à devenir un sujet responsable, en libérant des idoles et des oppressions, et y compris celles auxquelles nous soumettons autrui. Délié, détaché, déligoté, ça n'existe pas. Libéré. Au-delà de la vie qu'il procure à celui ou à celle qui les reçoit, les dons de Dieu orientent vers les autres, en faveur des autres, pour leur vie, pour leur liberté. Et c'est cela, aimer. Amen.